savez, Salman Rushdie dit « L'écriture est ce dont tout pouvoir a le plus peur. » C'est étrange. Un simple écrit, c'est dérisoire. Vous voyez, c'est avec ça qu'on peut faire trembler tous les pouvoirs du monde. C'est étrange. C'est une arme. Oui, c'est très peu de choses. Et en même temps, c'est comme si c'était l'antimatière de cette énorme matière ambiante.
Bienvenue à une nouvelle édition de Contact. Nous vous proposons aujourd'hui une rencontre avec l'écrivain Philippe Solers. Enfant terrible de la littérature française, Solers s'est d'abord remarqué en 1958 grâce à un premier roman, Une curieuse solitude, chaudement applaudie par la critique de l'époque. Le parcours de l'écrivain est par la suite sinueux, ponctué de controverses nombreuses et de retournements spectaculaires. Mais avec le début d'un cycle romanesque qui s'amorce en 83 par la publication de Femmes, Solers s'ouvre à un nouveau et vaste public. Plusieurs succès en librairie viendront d'ailleurs le confirmer par la suite. Nous l'avons d'abord rencontré aux éditions Gallimard. Philippe Solers, je me demande si on peut d'abord tenter une définition du personnage. Par définition, sans jeu de mots, j'imagine que vous redoutez ce genre d'exercice puisque vous avez choisi de faire plusieurs choses. Écrivain, critique, directeur de revue, intellectuel au sens où on l'entend ici. Si vous aviez à vous définir donc.
Écrivain. À partir du fait que je suis d'abord quelqu'un qui étudie des variations d'imagination à partir de l'écriture. Donc c'est la main. Vous voyez, c'est ça. Ma définition, c'est ça. C'est ce petit stylo-là, avec cet autre petit stylo-là, presque pareil. Celui-ci est noir, celui-ci est acajou, ce sont deux petits parkers, avec des plumes presque identiques. Ce
prolongement naturel.
Celui-ci est chargé de faire la fiction. C'est avec celui-ci que j'écris tous les matins, et parfois des jours, alors quand j'ai la possibilité de me concentrer dans mon emploi du temps, que j'écris ce que j'appelle des romans, hein, qui sont parfois d'une forme assez curieuse. Celui-ci, au contraire, sert à prendre des notes, ou à envoyer des lettres, ou à écrire plutôt des articles dans la presse. Ces deux petits stylos sont mes deux armes. Vous voyez, avec ça, on peut se balader partout, il suffit d'avoir du papier. Ensuite, ça fait des livres qu'on envoie à l'impression, ou on envoie aux journaux, et voilà, c'est ça, c'est la base de tout. À partir de là, même, je vais pouvoir commencer à parler, toujours en fonction de cette page qui est là, constamment devant mes yeux, que je remplis de gauche à droite, à la main, et je tape moi-même à la machine, sur une vieille machine.
Mais vous êtes sérieux quand vous dites que vous faites la distinction entre les deux stylos, qu'il y en a un véritablement pour l'écriture, pour le roman, et l'autre pour la correspondance?
Mais tout ça est d'une maniaquerie absolue, n'est-ce pas? Et l'encre, ce sont des stylos qui ne sont pas à cartouche, ce sont des stylos à pompe. Hein.
C'est important?
Très important.
Que d'aller pomper l'encre?
Oui. Voilà, vous voyez, ce sont des stylos à pompe. Et l'encre est elle-même, n'a pas n'importe quelle encre. Elle n'est pas achetée n'importe où. Elle est achetée parce que je vais deux fois par an à Venise depuis 25 ans. L'encre que j'achète est automatiquement achetée dans une petite
papeterie.
C'est la maniaquerie même. C'est ça. Un écrivain, c'est la maniaquerie même. Mais une maniaquerie qui n'enferme pas, qui ouvre, surtout. C'est donc une obsession qui est le comble de la liberté.
Pourquoi, selon vous, à plusieurs reprises, puis peut-être que c'est un débat qui ne fait rage que dans l'Hexagone ou même encore à Paris, pourquoi donc souvent la presse, les médias ont amplifié ou ce que vous avez écrit dans vos romans ou ailleurs dans la presse, on a souvent l'impression que Philippe Solers commente plus sa vie, sa position dans le spectre littéraire parisien que ses romans.
Voilà. Alors, il y a là donc une espèce de conflit, de contradiction. Il faudrait même dire de guerre entre deux systèmes. Un système de très grande concentration, de recueillement, de silence, Les livres sont le fruit du silence, comme disait Marcel Proust. Et un système, qu'on pourrait dire, radiation de
permanence.
De lumière qui a l'air de tout traverser, d'exhibitions, de grandes expositions, hein, de vie en deux dimensions, puisque nous entrons de plus en plus dans un monde où la vraie vie se jouera en deux dimensions, et l'image que je suis en train d'être aura tendance toujours à avoir l'air plus vrai que ce que je serai en
vraiment
réalité. Donc c'est là un conflit, et un conflit très intéressant d'ailleurs, une guerre très intéressante pour qui aura le système nerveux de la mener sans rien perdre. C'est-à-dire que il faut être en quelque sorte dédoublé.
Vous prétendez ce système nerveux?
Oui. C'est une question technique. C'est une façon d'utiliser son corps tout à fait lucidement, tantôt pour être exposé et tantôt pour être complètement recueilli et dans la visibilité totale, parce que vous savez, écrire n'importe où, dans une chambre d'hôtel, le matin, la nuit, bon, c'est infilmable, l'opération même. Et les deux registres à la fois, ça donne une vie extrêmement particulière, dont peu de gens ont l'idée. Alors, le système de représentation télévisuelle, photographiable, filmable, les déclarations tous les jours, c'est un système, un grand système planétaire désormais, hein, où la place de l'écrivain sera de plus en plus réduite. Mais cette ponctualité, cette intervention ponctuelle de l'écrivain peut avoir beaucoup de sens.
Ben, cette place que vous occupez donc dans ce second spectre planétaire plus médiatique, est-ce que vous ne l'occupez pas justement parce que la part de l'écrivain, elle, va se réduisant?
Elle se réduit et en même temps elle s'intensifie. C'est-à-dire que, regardez, bon, nous sommes à une époque extraordinaire. Un écrivain est condamné à mort par un État pour avoir écrit un livre qui blasphème les croyances de cet État. Je parle de Salman Rushdie.
Oui, évidemment.
C'est les versets sataniques, c'est un petit livre. Enfin, ça ne tient pas beaucoup de place. Il y a là même, au fond, que 10 pages ou 15 pages qui sont répréhensibles. Ça consiste à traiter dans le roman, ironiquement, la question des femmes du prophète. Vous avez ce petit objet de livre, et en même temps, un État entier, c'est ce qui ne s'est jamais produit avant. Un État qui condamne à mort un écrivain, donc, au fond, tout écrivain, parce que c'est comme la phrase fameuse d'Hemingway, n'est-ce pas, pour qui sonne le glas? Pour tout le monde. Un État puissant, qui fait des affaires avec le monde entier, qui est en train de signer des contrats très importants.
On le sait maintenant, oui.
Oui. Enfin, il y a des guerres, il y a des trafics d'armes, on ne sait pas. Il y a l'Irak, il n'y a pas que l'Iran, il y a eu une guerre avec 1 million de morts qui ont disparu. Comme la guerre du Golfe, vous avez eu 250 000 morts, 300 000 morts disparus dans les Sahara. Tout s'est passé en quelque sorte à la télévision, à CNN. Donc, un État engagé dans des tas de ramifications, en enchevêtrement, qui trouve une seule chose à dire, c'est condamner un écrivain à mort. Cet écrivain qui est obligé de se cacher, et d'être protégé, jusqu'à Cornouillon, hein, avec de l'argent, beaucoup d'argent, offert à ceux qui le tueront. Puis il y a déjà eu des meurtres, hein, le traducteur, je peux
dire.
C'est pour vous montrer le sérieux de cette aventure. C'est que l'argent pour ce meurtre programmé est augmenté de temps en temps, n'est-ce pas? L'Iran vient de déclarer qu'il augmentait la prime pour le meurtrier qui
donc
va exécuter la fatwa de l'ayatollah.
Mais est-ce que c'est la valeur de l'écrivain qui augmente en même temps?
Écoutez, on peut le penser. Écoutez, ensuite cet argent sera encore augmenté s'il s'agit d'un membre de la famille, enfin, qui tue l'écrivain en question. Donc là, nous sommes évidemment dans le cas majeur qui ne s'est jamais produit. Jamais Hitler ou même Staline ont condamné un écrivain à mort dans le monde. Nous sommes là donc dans un système relayé par l'information, mais personne ne sait quoi faire, en quelque sorte, ce qu'on peut faire. Donc voilà, l'écrivain qui est obligé de se cacher et de vivre dans les caves sous la surveillance permanente des services secrets britanniques. Bon, ça c'est une situation qu'on pourrait dire exceptionnelle, extraordinaire. Mais, encore une fois, pour qui sonne le glas, ça dit quelque chose de notre civilisation. C'est-à-dire qu'avec un petit livre, pourquoi s'émouvoir à ce point? C'est très étrange.